Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 18 novembre. Oui, mardi, pas mercredi. Donc, balado qui vous est livré une journée plus tôt cette semaine. Pourquoi? On avait quelques petits conflits d'horaire, donc on vous enregistre ça un peu plus rapidement. C'est pas grave parce que les Canadiens qui jouaient un rare lundi hier, donc c'est parfait. On est sur la nouvelle ce matin au balado. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute comme à chaque semaine. Et comme à chaque semaine, je les ai avec moi, Guillaume Lepage. Salut Guillaume!
Salut Nick!
Et Jean-François Chaumont. Salut JF!
Bon matin, messieurs!
Comment ça va?
Très bien.
Très bien.
Quelques jours de congé. Les Canadiens ont quitté Montréal après une semaine fort occupée. Donc, on profite de ce petit répit avant de se remettre en marche jeudi avec la visite des Capitals.
Ouais, vous n'êtes pas allé du côté de Columbus hier où il y avait le match d'hier. Vos oreilles se portent bien ce matin, messieurs?
Elle se porte bien, probablement mieux que celle de Jakub Dobesch. Pas parce que c'est un match difficile, mais avant le match, RDS est en iso sur Jakub Dobesch, le moment où on présente les statistiques du gardien partant, etc. C'est à ce moment-là que le premier coup de canon résonne du côté du Nationwide. Puis la réaction de Dobesch, là, tu vois les petites épaules qui partent. Honnêtement, moi, ça me fait toujours rire. Puis je salue Simon-Olivier Lorange qui a peut-être 2 ou 3 ans. Un match à Columbus, victoire des Blue Jackets. Demandez-moi pas le pointage final. Là. J'ai pas comme nom Guillaume Lefrançois pour m'en souvenir par cœur. C'est un soir de semaine, par contre. Ça, je me souviens que c'est un soir de semaine.
C'est pas celui de 10-0. Là.
Non, c'était pas le Al Montoya spécial. Night, non, c'était pas 10-0. Mais Marc-André Perrault, qui était un coquin sur une passerelle de presse, filmait Simon-Olivier chaque fois qu'il y avait un but des Blue Jackets en attendant la réaction. Même si on le savait, là, tout le monde le sait, le canon s'en vient. Simon-Olivier était incapable de ne pas sursauter. On le salue. Il n'est pas fait fort, mais écoute, c'est Simon-Olivier. Donc,
Et là, Dobesch, si je ne me trompe pas, il a évolué à Ohio State, ouais. Qui n'est pas très loin de l'aréna. Il aurait peut-être dû se souvenir. J'imagine qu'il a vu des matchs des Blue Jackets, mais...
Mais avant un match, je peux comprendre. Dobesch, il est dans sa préparation, ouais. Il est dans sa bulle. Le coup de canon avant un game, c'est un petit peu inutile. Mais ils veulent s'assurer d'en avoir au moins un pendant le match. Si jamais c'est un jeu blanc, mais au moins tu te dis, il y a eu le coup de canon avant la rencontre. Mais oui, Dobesch a sursauté.
Ouais, non, c'est une des traditions dans le hockey là, qui. Les oreilles, là, à un moment donné, ça doit travailler. La soirée de 10-0, là, ça a l'air que le gars responsable du canon, là, il a été en arrêt de travail pendant 4-5 jours après ça, parce qu'il y avait des acouphènes. Hey, les gars, on va parler aujourd'hui, on va revenir justement sur ce match-là des Canadiens, on va parler un peu de ce qui se passe. Disons-le, la semaine dernière, quand on s'est parlé, on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un effet boule de neige de négativité. Chez les Canadiens, ben écoute, il y a eu toute une tempête, puis la boule a continué à grossir dans ces derniers jours-là parce que ça n'a pas été des bonnes nouvelles. Hier, une autre défaite. Donc, on va parler de ça. On va regarder un petit peu aussi ce qui se passe ailleurs dans la Ligue. Les Maple Leafs, entre autres, là où ça va pas. Là aussi, là, la boule de neige est assez amorcée. On va parler aussi virage jeunesse à travers la Ligue, là, les plus jeunes joueurs qui. Comme une vague présentement, puis il y a des Macklin Celebrini pour Connor Bedard, tout ça, qui se signalent. Vraiment plus qu'on pensait cette saison. On va parler de tout ça aujourd'hui au balado de la LNH. Si vous nous écoutez, chers auditeurs, si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et on est disponible maintenant sur YouTube aussi, si vous voulez voir nos faces. Faites une recherche, la tasse de café LNH, encore une fois, où... Allez sur la page de la NHL, section podcast, et vous allez trouver la tasse de café à cet endroit. Les gars, on se lance, retour sur le match d'hier rapidement. Bon, ben, on espérait de la façon... Quand j'ai vu Zach Werenski donner l'avance 1-0 aux Canadiens en première période, je me suis dit, ça part mal. Ça part très mal, puis ça pourrait être une autre défaite qui en rajoute sur les épaules d'une équipe là, qui visiblement est brisée présentement, mais... On va s'en être quand même bien tiré avec une défaite de 4-3 en tir de barrage.
Oui, mais c'est les Blue Jackets qui avaient pris les devants 1-0, menait également 3.
J'ai-tu dit Canadien,
une petite coquille. Menait également 3-1 après 40 minutes.
Écoute, si Zach Werenski jouait avec les Canadiens, je pense que ça serait...
on parlerait de lui souvent, probablement à tous les balados.
Il est bon.
Mais si le côté positif, CH a démontré du caractère pour revenir dans cette rencontre-là, soutirer un point du côté de Columbus. Bon match pour Josh Anderson. T'sais, avec les absences à l'attaque, ils auront besoin d'un Josh Anderson, d'un Jake Evans. Lane Hudson a été bon, même très bon. Juraj Slafkovský, qui s'est promené d'un trio à l'autre, a connu un bon match. Mais est-ce que cette équipe vient de sortir du bois? Je ne suis pas convaincu. Il faut rester prudent. C'est un point au classement contre les Blue Jackets. Martin Saint-Louis avait raison de dire qu'il a aimé ce match. C'était beaucoup mieux que les dernières rencontres, que la semaine précédente. Mais il y a encore beaucoup d'éléments à corriger du côté du CH. Puis tu as des joueurs qui sont, on va en parler, mais tu as des joueurs qui vont être difficiles à remplacer pour les prochaines semaines.
Ouais, non, les blessures. Écoutez, bon, Alex Newhook tombé au combat, on l'a vu, là, la cheville qui a plié dans le mauvais sens. Kirby Dack Newhook, c'est 4 mois, donc on va être à peu près vers la fin de la saison. Kirby Dack, 4 et 6 semaines dans son cas, blessure au pied. Ça s'ajoute, bon, à Caden Goulet qui est déjà absent. Patrick Laine aussi qui se retrouve sur cette liste-là. Est-ce qu'il m'en manque? Je pense que c'est les 4, je veux pas en rajouter.
Les 4, serait, il en manque pas.
Ça serait comme disait
Jim Carr. Alors, de Caulfield qui a paru un peu inconfortable à quelques reprises hier.
Et Nick Suzuki un peu incommodé. Pas à 100%. C'est... Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est le propre d'une saison avec un calendrier qui est condensé à cause des Olympiques. Regardez la liste des blessés à travers la Ligue. Là. Il n'y a pas une équipe présentement qui est en santé. À vrai dire, celle qui est le plus en santé, c'est les Capitals de Washington qui s'amènent au Centre Bell jeudi, mais il manque quand même Pierre-Luc Dubois. On en reparlera plus tard. Mais il n'y a aucune équipe qui est en santé présentement. Donc, oui, ça peut servir un peu d'excuse, mais pas tant que ça non plus. Là. Toutes les équipes sont là-dedans présentement.
Oui, puis il n'y a pas une équipe qui se débrouillerait bien sans les services des deux attaquants qu'on identifiait potentiellement comme le deuxième centre de l'équipe au début de la saison. Ouais. Newhook et Dax, c'était les deux noms qui ressortaient quand on brassait les trios. C'est un test pour la profondeur. Puis la profondeur, ben on peut lever un sourcil là, quand on regarde ça. T'sais, Joshua Roy a été rappelé. Jared Davidson a connu un bon match. 4 tirs, je pense, à son premier match dans la Ligue nationale. Ça a été celui qui a tiré le plus souvent au filet samedi dernier.
Puis hier, mais... je l'ai vu. Tu comprends ce que je veux dire? Je l'ai vu sur la
mise en échec.
Il a même eu une chance devant le filet aussi. Là. Il est passé près encore de marquer son premier but en carrière. Mais ce ne sont pas des gars top 6. T'sais, Joshua Roy peut-être un potentiel offensif, mais à Montréal, on ne l'a pas encore vu dans cette chaise-là. On ne l'a pas vu s'émanciper dans ce rôle-là encore. Puis hier, on l'a placé sur un trio avec Josh Anderson, Jake Evans, qui ont connu un bon match, mais c'est pas ton trio sur lequel tu vas te compter pour générer de l'attaque. Fait que c'est un gros test pour la profondeur. Ça soulève aussi des questions du côté de la défensive. T'sais, on se disait, Goulet s'en vient, il y a de l'espoir un peu parce que là, Jaden Struble et Herbert Jacquay, disons que c'est des bons moments parfois, mais souvent des petites bulles au cerveau en défensive, puis on a de la misère à faire circuler la rondelle, à sortir la rondelle de la zone. On se disait, bon, Goulet va donner un coup de main, mais là, on prolonge encore de 8 à 10 semaines. Ouais, donc, est-ce qu'on commence à regarder ailleurs pour des renforts? Est-ce qu'on donne une chance à Adam Engstrom qui est en bas? Ben, ce sont toutes des questions qui ont été soulevées dans la dernière semaine. T'sais, on se recule de 7 jours, puis tout allait relativement bien là, du côté du Canadien. Cette semaine-là, ça a été catastrophique sur la glace, puis à l'extérieur aussi.
Corrige-moi, le ralentissement était quand même... quand on se parlait la semaine passée,
mais
on avait
pas
des drapeaux rouges,
là,
mais c'est ça, là, ouais. Vraiment, là, ça a empiré dans la dernière semaine.
Mais s'il y avait des drapeaux rouges ou des drapeaux jaunes, disons, qui sont accentués avec la perte. Newhook, il y a quelques... À ses débuts à Montréal, on n'aurait pas parlé d'une perte importante, mais le Newhook de cette saison qui donnait des minutes en infériorité numérique, qui jouait très bien avec Kapanen, Demidov, vient, t'enlève une pièce là, drôlement importante du casse-tête. Kirby Dack, il y avait des hauts et des bas, mais il semblait vouloir parfois sortir de sa coquille, Kirby Dack. Là, encore une fois, c'est la même histoire qui se répète avec lui. Là, c'est de la malchance, fracture à un pied, bloque un tir de Nikita Zadorov. Mais tu devras jouer sans Dack pendant un mois. Puis Guillaume parlait de profondeur. Oui, Jared Davidson, peut montrer des flashs intéressants. Il y a de l'intensité, il frappe, a eu des chances de marquer, mais tu te retrouves avec trois joueurs. Jared Davidson, hier, c'est un temps de jeu inférieur à 10 minutes. Joshua Roy, temps de jeu inférieur à 10 minutes contre les Blue Jackets. Joseph Veleno, qui, oh mon Dieu, ce joueur ne doit plus jamais être assis sur une passerelle de presse, selon un collègue qui aime beaucoup les réseaux sociaux. Joseph Veleno, toujours aucun point cette saison. Temps de jeu inférieur à 10 minutes. Ces joueurs-là devront aussi apporter une certaine contribution, mais est-ce qu'ils ont l'étoffe d'y arriver? Est-ce que Martin Saint-Louis va avoir la patience? En théorie, Joshua Roy va profiter de quelques matchs. Si on a procédé à son rappel, mais advenant le cas où il ne saisit pas cette chance-là, c'est qui le prochain du côté du Rocket qui peut donner un coup de main? Tu tombes vers un Owen Beck, peut-être un Florian Jacky. Jacky n'a pas connu un camp d'entraînement, a connu un bon camp, mais n'a pas un bon départ du côté du Rocket. Il y a Laurent Dauphin qui joue très bien avec le Rocket de Laval, mais Laurent Dauphin n'a pas de contrat LNH. Donc, si jamais tu choisis de lui offrir une chance, tu dois lui donner un contrat. Ça, c'est possible. Le CH a de l'espace là, sous la limite des 50 maximum. Tantôt, Guillaume m'a parlé d'Arber Jacky. On en parle souvent au balado. Hier soir, après le match, je m'amusais à faire une petite recherche pour le temps de jeu. Parmi les défenseurs qui ont joué 10 matchs et plus dans la Ligue nationale, Arber Jacky se retrouve au 193e rang sur 195 défenseurs pour le temps de jeu, à 11 minutes 22 secondes. Il y a Matthew Kessel des Blues qui est à 11-13 et Jake Christensen qu'on a vu hier du côté de Columbus qui est à 10-11. Mais Jacky frôle le dernier rang. Ça veut dire que tous les matchs, tu joues à 5 défenseurs et demi. Si on considère, mettons, 20 minutes de temps de jeu pour un défenseur, là, donc, à long terme, tu vas demander à Mike Matheson combien de temps Matheson va pouvoir manger 27, 28, 29 minutes par rencontre. Même chose pour un Lane Hudson, même chose pour un Noah Dobson. Donc, tu viens surtaxer tes joueurs. Tantôt, je parlais du temps de jeu, les attaquants. Si tu en as 3 en bas de 10 minutes, bien, Suzuki dit « Bonjour, je suis pogné pour jouer 23. » Donc, Suzuki qui a déjà mal à un pied, il y a un certain moment où le citron, là, il va commencer à être pressé drôlement dans un calendrier qui ne sera pas jojo au mois de décembre et fin novembre. Des matchs, il y en a au pied carré.
Oui, puis tu sais, on en parlait l'année dernière, Mike Matheson, quand il joue trop de minutes, commence à être moins efficace. Puis cette année, Matheson, on regardait hier au bureau avec ses collègues Sébastien Deschambault qui montrait ça, montrait la charte des défenseurs, le déploiement zone offensive versus zone défensive versus la qualité des joueurs qui sont sur la glace. Matheson est un des meilleurs cette année. Mm-hmm. Au niveau de l'efficacité.
Il est toujours avec Dobson contre
Matthew l'équipe. Toujours, Matheson est un des plus. Et là, c'est ça que tu ne veux pas perdre. Tu ne veux pas lui donner trop de minutes où il va se retrouver, ça va lui en prendre trop, puis il va perdre cette efficacité-là. La solution, tu en as parlé, Adam Engstrom, c'est pas le même type de défenseur du tout qu'Arber Jacky, mais à un moment donné, ça te prend quelqu'un qui peut te donner plus de minutes là. Est-ce que ce que vous avez vu de lui dans les deux dernières années, qu'à l'entraînement puis tout ça, est-ce qu'il est prêt pour la Ligue nationale?
Bien honnêtement, je n'ai pas vu jouer cette saison avec le Rocket de Laval, là, mais de ce qu'on a vu au camp d'entraînement, il y avait des beaux flashs offensifs et tout ça. C'est peut-être... Tu sais, ça commence à en faire beaucoup des défenseurs de ce type-là avec le Canadien. Tu sais, on regarde Matheson, Dobson, c'est des gars qui sont efficaces défensivement, mais qui ont cette touche offensive-là. Lane Hudson aussi. Est-ce que tu rajoutes un quatrième défenseur qui t'amène, somme toute, la même chose? Ou est-ce que... Ça fait quelques fois que Marc Delgaiso est rappelé, puis on le rappelle seulement en cas d'urgence, si jamais quelqu'un est malade avant le match, peut-être parce que ce serait le temps de...
Ça commence à être chiant pour lui parce que là, il a été rappelé plusieurs fois, puis il ne peut toujours pas jouer une game des anciens dans 15 ans, 20 ans. Là. Et il n'a pas non, officiellement ça, passé, il n'a pas le statut pour aller au salon des anciens encore. Là.
Puis tu sais, on a tendance à l'oublier, mais il a joué 46 matchs l'an dernier avec les Prédateurs de Nashville. Là, c'est pas un joueur qui a aucune expérience puis que tu lancerais dans la gueule du loup comme ça. T'sais, c'est un gars qui est capable de jouer dans cette ligue-là, qui a un aspect physique aussi. On l'a vu dans le camp d'entraînement, frappait. Tu sais, si Arber Jacky n'est pas en mesure de donner ce que tu veux défensivement, mais que tu veux garder un aspect offensif, ben peut-être que Delgado devient une option intéressante. Puis là, ça pourrait commencer aussi. On en parlait hier, moi, puis JF, on s'est appelé comme on le fait à peu près 8 fois par jour.
Oui, c'est ça.
Exact. Mais
honnêtement, je réponds pas quand je suis avec lui, tu le sais. Hein? J'ai le texte, puis ça se résume à ça. Là, on va s'arranger. On se verra au rond, comme on dit.
Non, c'est ça. Mais on s'en parlait, puis Jack High, on dirait qu'il est tellement... En ce moment, il est tellement confortable dans sa chaise. Il n'y a aucune personne qui pousse derrière. On n'instaure pas un concept de compétition interne. C'est comme on a 6 défenseurs, puis c'est les 6 qui vont jouer tous les matchs. Ben, peut-être qu'à un moment donné, tu deviens un peu trop à l'aise, un peu trop dans tes pantoufles. Puis s'il n'y a personne qui est là pour te pousser, ben ça crée peut-être des situations comme on voit en ce moment. Puis oui, les gens l'aiment bien, puis oui, on aime le côté bagarreur et tout ça, mais là, ça fait 2 bagarres consécutives qu'Harbert Jacquet paraît plus ou moins bien. Donc, si tu n'as même plus cet aspect-là, ben là, faut que tu te poses la question à quoi il sert en ce moment.
Mais
je dis pas que c'est terminé. Je dis qu'il y a peut-être besoin d'une pause, puis on réaligne un peu les choses, on travaille sur certains détails, parce que en ce moment, des jeux simples deviennent compliqués avec lui. On le voyait samedi encore, une sortie de zone qui était facile en théorie. Là, on regarde ça de haut, puis je ne dis pas que je ferais mieux, mais tu vois, la ligne de passe est là, rate sa passe, ça donne un dégagement refusé, on revient, l'adversaire gagne la mise au jeu, obtient 2 chances de marquer sur la séquence suivante sans sortir de la zone. Mm-hmm. Donc, c'est des détails comme ça que parfois, tu sais, on remarque pas si on regarde le match avec une bière puis des amis, mais samedi, on n'en revenait pas. Là, tu sais, on était comme, ben c'est le genre de jeu qui fait la différence dans un match. Puis en ce moment, je commence à douter là, d'Harbert Jacquet puis de sa fiabilité puis de son efficacité en ce moment.
C'est un gars, par contre, qui est travaillant, Harbert Jacquet. Je suis convaincu que si tu lui poses la question, il le sait qu'en ce moment, il y a des matchs où c'est plus difficile, son temps de jeu est limité. Il faut qu'il essaie d'en donner le plus possible dans une petite fenêtre. Mais à 6 et 4, 240 livres aussi, c'est pas simplement de jeter les gants. Le combat contre Tanner Janot ou contre Nicolas Deslauriers, on peut oublier ça, c'est anecdotique. Mais à 6 et 4, 240 livres, il faut que tu sois physique, il faut que tu sois imposant, il faut que tu fasses mal de temps en temps. Tu sais, les attaquants qui se présentent devant le filet de Dobesch ou Montembeau, là, ils sont pas supposés aimer ça quand ils se retrouvent devant Harbert Jacquet. Nikita Zadorov est encore plus gros, mais Nikita Zadorov, là, il est fatigant devant un filet, il est pas le fun, il est gros, il est pesant, mais ça, Jacquet doit aspirer à devenir un défenseur aussi intimidant. Puis, à ses débuts, quand Jacquet joue bien, il est capable de le faire, mais ce qu'il peut le faire sur une base constante, tu sais, Martin Saint-Louis, tous les coachs vont me dire que la constance, c'est le plus grand piège pour tout jeune joueur. Mais là, Jacquet devient de moins en moins jeune. Il a de l'expérience, puis je suis d'accord avec Guillaume, d'avoir un 7e défenseur qui serait capable de te donner des minutes, ça apporterait une compétition saine à la ligne bleue. Delgado, est-ce qu'on va lui donner une chance? On verra. Sinon, Adam Engstrom, Delgado, on parle de 2 autres défenseurs gauchers. Il y a déjà beaucoup de gauchers à la ligne bleue. Mm. Il y a seulement Carrier Dobson du côté droit. Écoute, s'il y a une bonne nouvelle, par contre, c'est que Lane Hudson du côté de Columbus, Hudson s'en met beaucoup sur les épaules. C'en est un qui, après une défaite, va avoir des propos sévères, très critiques de lui-même. Après le match contre les Bruins, il prenait pratiquement la défaite sur ses épaules en disant « c'est à moi d'être meilleur, surtout en avantage numérique, je dois être le cerveau, etc. » Hier, il n'a pas eu d'avantage numérique, mais il a trouvé une façon d'aller chercher un but, une passe contre les Blue Jackets. J'ai parfois le sentiment que ainsi va Hudson, ainsi va le Canadien. C'est un gars qui est très, très, très important au succès de l'équipe. Hier soir, avant de dormir, au lieu d'appeler Guillaume, j'ai fait quelques petites recherches. Puis quand Lane Hudson obtient un point ou plus, le CH a une fiche de 8-2-2. Quand Lane Hudson est blanchi de la feuille de pointage, le CH a une fiche de 2-4-1. C'est normal. Tous les gros joueurs ont un impact semblable. J'ai regardé le capitaine Nick Suzuki. Quand il a un point et plus, 10-3-1. Quand il est blanchi de la feuille de pointage, 0-3-2. Donc, ces deux joueurs, si tu finis par ralentir Suzuki et Hudson, puis quand tu commences à avoir moins de ressources, bien, c'est plus facile d'essayer de placer tous tes œufs à ralentir Suzuki et Hudson.
Je vais ajouter dans le cas de. On parlait de Strouble tantôt. Il y avait un débat Strouble ou Jekai au début de l'année. Je dirais que Strouble, jusqu'à présent, l'a clairement gagné. C'est pas parfait, Strouble, mais il est clairement pas non plus dans sa chaise. Il devrait pas être celui avec Lane Hudson. Bon, fait son possible, va devoir le faire, j'ai l'impression, jusqu'à temps que Caden Goulet revienne au jeu. C'est quoi, c'est 10 à 12 semaines, Goulet, là, avec.
C'est long, longtemps.
C'est la plus récente opération. Donc, c'est long, longtemps. Écoutez, on a parlé de renfort. Possible. Hier, changement de trio, on a modifié. Avant, changement de trio, vous avez pensé de quoi? Parce que là, on veut essayer de relancer Zachary Bauduc. Super début de saison, mais depuis ce temps-là, pas nécessairement de sa faute parce qu'il était placé sur le quatrième trio. Mais lui, c'en est un qu'il a énormément ralenti. On le place sur le premier trio. On demande à Juraj Slafkovský. C'était quand même drôle hier de parler du vétéran Slafkovský. Mais je trouve quand même bien, surtout en deuxième partie de match, Slafkovský a vraiment bien assumer sa tâche d'être le nouveau papa de ce trio-là avec Kapanen et Demidov. Est-ce qu'il y a une piste de solution dans ces trios-là? Voyez-vous quelque chose à long terme qui peut fonctionner jusqu'à temps qu'il y ait des retours de blessés ou jusqu'à temps qu'il y en ait plus de blessés à l'infirmerie? Puis là, c'est l'hécatombe.
Ben, il fallait qu'il se passe quelque chose parce que dans les derniers matchs, Juraj Slafkovský n'était pas très, très efficace. On ne le voyait pas beaucoup. S'est fait sonner les cloches deux fois samedi au Centre Bell. C'est un joueur qui était, je sais pas, des fois on le voit là, tu sais, qui est moins impliqué dans le jeu. Il est peut-être un peu plus dans sa tête, puis il s'est fait surprendre deux fois. Hier encore, solide mise en échec en début de match. Je me disais, bon, on va revoir le même Slafkovský samedi, mais il a bien répondu par la suite. Puis, tu sais, GF parlait de mettre tous ses œufs dans le même panier pour l'adversaire. Ça devient facile là, si tu as un trio à contrer. Puis après ça, tu fais attention un peu à Demidov, Kapanen. Le reste, oui, peut générer de l'attaque, mais disons que c'est pas vraiment les moteurs offensifs de cette formation-là. Là, en faisant ce que Martin Saint-Louis a fait hier, Bolduc, tu lui donnes une chance de se lancer dans un rôle qui est plus précis, disons, que les rôles qu'on lui a confiés depuis le début de la saison. Là, alterné entre le troisième et le quatrième trio. C'est un joueur qui cherchait peut-être un peu. Là, tu lui dis, garde, tu joues avec les deux meilleurs joueurs de notre équipe. T'as un rôle offensif, let's go. Vas-y. Hier, a eu des beaux flashs. Il manquait un peu de cohésion quand même sur ce trio-là. Là, on sentait qu'il cherchait beaucoup les passes et il n'était pas encore... C'était leur premier match ensemble. Il faut laisser du temps pour qu'ils se trouvent sur la patinoire. Mais le deuxième trio avec Slafkovský, il disait après le match, il voulait vraiment prendre les choses en main sur ce trio-là, être le meneur de ce trio-là. Puis c'est ce qu'il a fait avec Demidov et Kapanen. J'ai quand même bien aimé ce trio-là. Puis ça donne quand même, en ce moment, dans les circonstances, deux trios qui peuvent être dangereux, qui peuvent générer des choses offensivement. Est-ce que ça va durer? Voyons voir, mais je pense que tu peux pas continuer avec un seul trio puis espérer que tes trois autres te donnent des buts une fois de temps en temps parce que avec le nombre de matchs qu'il y a, ça peut être taxant là, pour le premier trio de toujours porter le poids là, de la production offensive de cette équipe-là.
Je pense que c'est une décision aussi de nécessité. Tu veux rebrasser tes cartes, question d'avoir un petit peu plus de profondeur, d'équilibre à l'attaque. Au camp d'entraînement, dès les premiers jours, Martin Saint-Louis disait « Cette équipe-là va miser sur un gros trio, puis ensuite, les autres trios vont se ressembler. » Mais le gros trio était identifié depuis longtemps. Ça restait Caulfield, Suzuki, Slafkovský. Guillaume Lefrançois, qui est quand même bon avec les chiffres, a fait une petite recherche. C'était 75 matchs d'affilée, en incluant le premier tour des séries contre Washington, où Caulfield, Suzuki, Slafkovský jouent ensemble. 75, c'est beaucoup. C'est beaucoup de stabilité. Il n'y avait pas eu de changement depuis le mois de décembre 2024. Tu choisis de déplacer Slafkovský, mais je pense que ça a eu l'effet aussi de le fouetter.
Ouais.
Quand on parlait d'exécution, toute la semaine, on a parlé d'exécution. Mais un joueur pour qui l'exécution était vraiment difficile dans les derniers matchs, c'était justement Slafkovský. Plusieurs mauvaises passes, plusieurs entrées de territoire où il perdait la rondelle. Puis avec Kapanen, avec Demidov, hier, quelqu'un qui n'a pas regardé le match, il n'y a pas de point Slafkovský. Mais c'est lui qui a la troisième passe sur le jeu où Matheson... c'est qui? C'est le but de...
Kapanen.
Kapanen, oui, exact. Ouais. celui qui contrôle la rondelle, celui qui part le jeu, c'est Slavkovski. Sur le but égalisateur, j'ai vu 22 fois la reprise. Je me demande encore s'il redirige ou non la rondelle ou si c'est la mitaine.
Il était à bonne place au moins.
Oui, mais exactement, peu importe, touche pas la rondelle. Il a fait son travail. Il a caché Jet Greaves. Ça a fait en sorte qu'il n'a pas bien vu la rondelle. Puis probablement, sa réaction après le but parle beaucoup, plus que les 24 reprises, parce que c'est pratiquement impossible de le savoir. Il célèbre en regardant Lane Hudson. Tu as le sentiment qu'il lui dit « Non, je ne lui ai pas touché à la rondelle. » Mais bon, peu importe, point ou non, Slavkovski a connu un bon match. Puis en fin de rencontre, par contre, Martin Saint-Louis, quand il voulait créer l'égalité, il est revenu avec ses trois chevaux. Slavkovski était de retour à l'aile gauche, à l'aile droite avec Caulfield et Suzuki. Puis Bolduc, bien, on n'a pas aimé une présence où il a perdu une bataille à un contre un pour un but des Blue Jackets. Dans les dernières minutes de la troisième période, Bolduc a moins joué. Mais je pense que le schéma offensif des nouveaux trios, on risque de le revoir. Tu as plus ou moins le choix. Il va falloir que tu aides Kapanen et Demidov aussi. Tu ne peux pas simplement envoyer Joshua Roy ou envoyer Jared Davidson. Il faut que tu aies un ailier susceptible de les aider. Puis Slavkovski peut être une bonne réponse.
Oui, puis hier, Martin Saint-Louis l'a dit après le match, il fallait qu'il brise la normalité qui s'était installée. Puis c'est un peu ça qu'on fait. J'haïs pas ça, je veux dire. Demidov, c'est un joueur intelligent qui a l'air de bâtir des jeux. T'en as un qui peut aller au filet en Slavkovski. Puis t'as un Kapanen qui peut s'occuper un peu du repli, mais en étant super intelligent. En plus, ça donne à être le meilleur marqueur, le meilleur buteur parmi les recrues de la Ligue nationale. Faudra voir, mais oui, il y a vraiment une piste de solution. Puis pour Bolduc, ben, on l'avait dit qu'il allait avoir des défis cette année. Nouvel environnement, nouvelle équipe, la gang la deuxième année en plus. C'est à lui de s'en sortir présentement. Comme tu dis, sa fin de match n'a peut-être pas été parfaite. Bon, on se réveille ce matin, on regarde le classement. Les Canadiens, si les séries commençaient aujourd'hui, les Canadiens qui seraient tout de même de la grande danse du printemps avec 23 points en 19 matchs. Mais derrière, c'est tellement serré. Écoutez, les Capitals de Washington, qui sont huitièmes dans la course au 4e as, ont 20 points. Donc, seulement 3 points de différence. Vous êtes Kent Hughes. Vous faites quoi à partir de maintenant? Avec les blessures qui sont là et qui sont là pour longtemps, minimum, le retour le plus près, c'est qu'il y ait Kirby Dack dans 4 à 6 semaines. Est-ce que vous déviez du plan? Puis vous allez tout de suite magasiner, alors que les autres équipes vont vous voir venir là, de loin, où on s'en tient au plan, puis on essaie de voir s'il n'y a pas un Florian Jacquet, s'il n'y a pas des solutions avec le Rocket qui peuvent dépanner le temps que ces gars-là reviennent.
Ben, tu sais, il y a une semaine et demie, on regardait les choses, puis on se disait, à la date limite des transactions, ça va être le moment d'aller chercher quelques morceaux supplémentaires qui vont permettre aux Canadiens de faire un bout de chemin en série. Donc, le plan, est-ce que c'était ça ou c'était de toucher à rien cette saison puis espérer que ça se produise comme le Canadien l'a fait l'an dernier? Pour moi, c'était une saison où le Canadien allait bouger éventuellement pour ajouter certaines pièces. Est-ce qu'on peut bouger maintenant? C'est sûr que le gros bout du bâton, là, c'est pas Kent Hughes qui l'a en ce moment. Là. Comme tu l'as dit, tout le monde connaît la situation. C'est le nombre de blessés qu'il y a avec cette équipe-là. Ça peut être difficile de faire une transaction qui a du sens, qui respecte ce que Kent Hughes dit toujours. Là, une transaction qui nous fait pas mal à court terme puis qui va nous aider sur le long terme. Ça peut être un peu plus difficile, mais tu regardes ça, j'ai fait l'exercice ce matin. Là. J'ai juste pris la blessure à Kirby Dack en exemple sur 4 semaines, sur 6 semaines. C'est en moyenne 2 matchs de plus cette année que l'équipe va disputer pendant cette période-là. Okay. Sur 4 et sur 6 semaines. Donc, 2 matchs de plus, ça a l'air de rien, mais c'est 4 points. 4 points l'an dernier, le Canadien est hors du portrait des séries. Mm-hmm. Est-ce que tu gardes le statu quo, tu te croises les doigts puis tu fais rien? Ou est-ce que essaie des choses. T'sais, pour moi, ce serait pas une grosse transaction de dire on va aller chercher un Sidney Crosby comme deuxième centre. Là. On va oublier ça, mais je parle plus d'un gars qui est un cinquième, sixième défenseur stable. Déjà là, je pense que ça pourrait donner un gros, gros coup de main à cette équipe-là parce que hier, tu regardes encore, les deux premiers buts, là, le but de Werenski qui peut s'avancer jusqu'aux oreilles sans être dérangé.
Oh, il y a eu du temps. Hein? Il y a eu du temps.
Le cafouillage...
J'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais plus qui l'a écrit, mais qui est un bateau-bateau, deux bateaux-bateaux.
Non, ceux c'est, qui ont c'est, joué c'est...
Là,
t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui le couvre? Il n'y avait personne. Le but de Fantilli, ben, c'est cafouillage après cafouillage, la rondelle qui bondit à gauche, à droite. Il n'y a comme aucun joueur des Canadiens qui veut toucher à cette rondelle-là. Tu sais, ça revient au fait que tu surtaxes tes meilleurs éléments puis que tu as un sixième défenseur en Jack Eye que tu peux pas vraiment utiliser souvent dans un match. Ça cause, tu sais, c'est comme un jeu de domino, là. Tout est en train de tomber. Donc, d'ajouter un...
Alexandre Carrier 2.0.
Exact, peut-être ça. Ouais. Puis, tu sais, réaliser ça a été un vol, là, on s'entend. Mm-hmm. Le Canadien s'est pas déshabillé pour aller chercher Alexandre Carrier. Puis finalement, ça s'avère être une excellente transaction. Donc, juste aller chercher un petit élément comme ça, peut-être que ça pourrait faire la différence là, pour au moins attendre le retour de Kaelin Gooley à la ligne bleue.
Moi, je partage l'opinion de Guillaume. Je pense pas que Kent Hughes, Jeff Gorton...
Combien de fois vous vous parlez par journée?
Oui, on se parle souvent, mais je pense pas qu'ils sont à l'étape où ils vont tout sacrifier pour s'améliorer à court terme. Hughes, Gorton sont méticuleux depuis qu'ils ont amorcé cette reconstruction-là. Ils sont patients. Je crois qu'ils vont, même s'il y a des partisans qui n'aimeront pas ça, ils vont encore miser plus sur la patience. Mais s'il y a une transaction hockey qui devient possible, où tu ne vides pas tes meilleurs espoirs, tu ne sacrifies pas tes meilleurs choix, ça te donne un coup de main à court terme, à moyen terme. Il n'y a pas de doute qu'ils vont l'écouter. Mais dans leur grand plan, je ne crois pas qu'ils voyaient la Coupe Stanley non plus cette année. Je ne crois pas qu'ils s'identifiaient comme une équipe aspirante. Probablement que le mois d'octobre a fait en sorte que ça a gonflé encore plus la balloune des attentes. Surtout dans une ville comme Montréal. Mais là, on a un retour à la réalité. Puis on a parlé beaucoup des blessures à Newhook, à Dak, à Goulet. Mais c'est peut-être un retour du balancier aussi. La saison dernière, tu as 11 joueurs du CH qui ont joué 79 matchs et plus. Dans les 11, là, je ne compte pas Samuel Montembeau, c'est un gardien, mais Montembeau, en saison, il a été en santé du début à la fin. Il s'est blessé uniquement au premier tour des séries contre les Capitals. Puis il y a une seule équipe qui avait plus que 11 joueurs avec 79 matchs et plus, les Capitals de Washington. Les Caps ont eu une saison formidable aussi l'an dernier. Il n'y a peut-être pas d'hasard, là. Pas de blessure, grosse saison. Il y a Ovechkin qui s'est blessé, mais on dirait que toute la quête du record, ça donnait un élan à cette équipe-là. Cette saison, mais tu perds des morceaux, tu en perds pour de longues périodes, puis dans un calendrier condensé, ça va faire mal. Mais moi, je crois plus, pour revenir au propos de l'érudit Guillaume Lepage, je crois plus à une petite transaction qui peut te donner un coup de main qu'à un gros coup d'éclat.
De toute façon, JF, je pense que tu avais lancé une rumeur, là, toi, là, sur
j'ai
à la radio.
J'ai aucunement lancé une rumeur. C'est qu'il y a des...
Non, Mario Ferraro s'en vient à Montréal.
Non, c'est qu'il
Oui.
Dans une entrevue avec Cogeco 98.5 avec Mario Langlois, on me demandait d'identifier des joueurs au sein d'équipes faibles qui pourraient être susceptibles d'intéresser certaines formations. Puis j'avais... T'encercles pas juste de gros noms, là. Puis j'avais encerclé le nom de Mario Ferraro en disant que c'est un bon défenseur qui joue de bonnes minutes, qui joue en infériorité numérique. Puis j'avais illustré que le CH avait quand même des difficultés. Puis ça fait quand même quelques jours, mais on parlait d'Arbor Jack qui avait des difficultés. Puis là, t'as un site qui ne cherche que des clics, qui a fait 1 plus 1 égale 2, mais jamais... J'avais aucune information me disant que Kent Hughes et Jeff Gorton ont les yeux vers Mario Ferraro. Ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est ça, la réalité de 2025, c'est la recherche de clics et d'histoires, de sensations, de rumeurs. Donc, c'est un petit peu fatigant. Mais
cela dit, ça, un gars comme Mario Ferraro, c'est un prototype, tu sais, qui ne coûterait pas la peau des fesses puis qui pourrait aider une équipe dans le trouble comme le Canadien en ce moment.
Ouais, c'est ça, parce que quand on regarde le classement présentement, il n'y a pas tant de partenaires de danse que ça. Là, puis c'est ça le problème.
Mais
là.
C'est tellement serré dans ça, l'Est. Là. Le dernier rang, les Sabres, partent sur une série de 4 victoires, ils viennent dans la course. Mm. Là. Ouais. Mais dans l'Ouest, il y a déjà une ou deux équipes un petit peu plus larguées que dans l'Est.
Oui, exactement. Mais quand même, parce que oui, il y en a qui sont un peu plus larguées, mais les Blues vont pas lancer la serviette.
Non.
Les Sharks, ça va bien, somme toute, versus les attentes, touche à rien. Là, on a 6 victoires. Ça veut dire les Sharks, c'est pas de leur mauvais début de saison. On a perdu, je pense, 6 matchs consécutifs. On aurait toute une fiche. On a différentiel de but à -7 présentement. Touche à rien chez les Sharks. Il y a les Flames que ça va mal, effectivement. Puis là, il risque d'avoir quelques changements. On peut penser à Nazem Kadri, on peut penser à Rasmus Anderson. Je suis pas en train de dire que j'ai de l'information au sujet d'une arrivée d'un de ces joueurs-là à Montréal. S'il vous plaît, ne me citez pas en ce sens. Je dis que c'est des potentiels joueurs qui pourraient changer d'adresse. Anderson, je crois, en est d'ailleurs à sa dernière année de contrat.
Défenseur droitier avec un profil quand même offensif. Mais...
C'est ça. Donc c'est ça. Puis dans l'Est, tu l'as dit, il n'y a aucune équipe. Donc, présentement, là, les Flames ont le gros bout. Tu disais gros bout du bâton. Là, c'est un bâton, un enfant qui apprend à jouer au baseball. Là, le bâton en plastique rouge qu'on avait quand on était jeune. Là, il est gros comme ça, le bâton des Flames, présentement.
C'est quand même drôle parce qu'on se demandait en début de saison si les équipes n'allaient pas bouger plus rapidement dans une saison avec la pause des Olympiques et tout ça. En ce moment, tu sais, c'est complètement l'inverse qui se produit. Là. Tout le monde a espoir de continuer leur bon début de saison puis de se tenir dans la course aux séries. Fait que je pense qu'il va falloir attendre. On s'en reparlera peut-être dans un mois puis ça va avoir changé. Là. Mais pour l'instant, on dirait que c'est très, 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 très serré puis qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, tu sais, de semaine en semaine. Les équipes se maintiennent quand même dans le peloton et tout ça, donc je sais pas comment ça se passe du côté des téléphones des DG, là, mais c'est peut-être le calme plat à part du côté de Calgary.
Mais ça change vite aussi. Là. Il y a du circule de quelques jours, les partisans rêvaient de voir le CH terminer au sommet de l'Atlantique. Puis là, en date du 18 novembre, probablement que le rêve, c'est simplement d'une participation aux séries. Ça se corse rapidement, puis moi, je trouve qu'il y a des géants qui dorment un petit peu dans l'Est. Les Panthers qui ne sont pas encore dans le portrait des séries. Le Lightning de Tampa Bay qui n'est pas dans le portrait des séries. On se reparlera dans 8 semaines, voir où seront le Lightning et où seront les Panthers de la Floride.
Ouais, chaque année, on dit qu'à l'action de grâce, là, les choses sont pas mal coulées dans le béton pour la majorité des positions au sommet des sections. Là, c'est pas du tout le cas cette année. On va en reparler. L'action de grâce, c'est la semaine prochaine. On va justement analyser les tendances puis tout ça à travers la Ligue puis aller de nos prédictions pour la suite des choses. Les gars, les Capitals qui s'amènent à Montréal jeudi, saison, tu parlais de géants qui dorment. Les Capitals, on est présentement au niveau de la section métropolitaine. On est au 8e et dernier rang avec une fiche de 9-8-2. C'est quand même une fiche au-dessus de 500. Quand André Tourigny là, est venu au balado il y a 3 semaines environ, puis il a dit quand tu joues 5-6 matchs au-dessus de 500 à la fin de la saison, tu ne fais pas les séries, bien, on le voit présentement, à peu près tout le monde dans la métropolitaine est en haut de 500. On est privé de Pierre-Luc Dubois chez Alex Ovechkin. C'est pas la saison à laquelle on s'attend présentement. Est-ce que, dans une optique où les Canadiens doivent rebondir, c'est un adversaire qui est quand même intéressant? Ou Ovechkin à Montréal, il y a tout le temps un petit quelque chose, on dit, les joueurs aiment ça jouer à Montréal. Là. Puis, c'est le match revanche des dernières séries éliminatoires aussi, donc il va peut-être avoir plus d'émotions qu'on le pense là, sur la glace.
Ben, Ovechkin, c'est un gars qui aime la grande scène, ça, il n'y a pas de doute. Il roule quand même un rythme plus intéressant depuis quelques matchs. Mais t'as collé le mot géant avec les Capitals. Je continue de croire que c'est un géant au pied d'argile. Je suis pas convaincu que la dernière saison.
C'est bien dit, j'aime ça.
Je suis pas convaincu que
c'est
la dernière.
C'est sûr que tu pensais à ça pendant toute ton intro. Là.
Merci de couper mon
ton
élan.
Ton envolé.
C'est mon envolé littéraire. Je me sentais comme Alexandre Gascon.
Ah oui,
mais. Mais, tu sais, la dernière saison, est-ce que c'était le réel reflet du talent, du potentiel de cette équipe-là? On peut se poser des questions. Il y a plusieurs joueurs qui ont connu une très, très, très bonne saison, Strom et compagnie. Mais si tu regardes également le duo de gardiens, Thompson, Lindgren, ils ont joué du hockey étincelant pendant toute la saison dernière. Logan Thompson a encore de très bons chiffres cette année. Mais je ne vois pas non plus les Caps comme comme une bête, comme une machine de l'Association de l'Est. C'est une bonne équipe, mais cette équipe-là devra se battre si elle souhaite participer aux séries cette année.
Tom Wilson, qui est le meilleur marqueur de l'équipe présentement. Tom Wilson, pour les Olympiques, équipe Canada, est-ce que c'est un candidat, selon vous, que vous, à qui vous donneriez une chance, peut-être, pour un, l'aspect, bon, l'aspect papier sablé, là?
Plus ou moins,
entre
de mon côté.
Entre lui et Sam Bennett, mettons.
Sam Bennett. Tu, on fait-tu le jeu des...
Pas au complet. Je veux pas qu'on fasse toutes les...
Ce que tu préfères, t'as-tu
mais...
d'autres choix, là?
Sam Bennett
n'a pas une grande saison, mais juste avec ses dernières séries, conquête de la Coupe Stanley, sa feuille de route, je réponds Sam Bennett. Mais je serais pas surpris si jamais Tom Wilson gagne un poste, parce que c'est le type de lié sur un quatrième trio que les dirigeants de l'équipe canadienne peuvent tomber en amour. Mais dans un... Ça va patiner aussi aux Olympiques. Wilson a un bon coup de patin, ouais. Mais je crois qu'il y a d'autres candidats d'équipe canadienne qui peuvent accomplir un boulot semblable.
Bon, on a parlé d'un match qui va avoir un peu d'émotion jeudi contre les Capitals. Samedi, les Maple Leafs de Toronto qui s'amènent à Montréal, ça, on connaît le refrain. D'ailleurs, ça a été un match quand même assez relevé hein, contre les Bruins. Il y avait de l'électricité dans l'air. Il va en avoir en plus contre Toronto. Mais saison complètement différente jusqu'à présent pour les Maple Leafs par rapport aux Bruins. La blessure d'Austin Matthews pourrait ne pas être de ce match-là contre les Canadiens. On lui dit une semaine d'absence à partir de vendredi dernier. Ça nous donne pas mal le match de samedi. Blessure au bas du corps d'Icon Matthews. Mais l'absence de Mitch Marner a complètement changé cette équipe-là. Êtes-vous surpris de voir à quel point les Leafs, on est dans le fossé depuis le début de la saison, là, dans le Dallo, appelle ça comme tu veux?
Non, pas vraiment surpris parce que tu sais, pour avoir couvert cette équipe-là dans les dernières années en séries éliminatoires, on dirait que. Oui, Marner était la cible là, du côté de Toronto. On n'aimait pas son jeu en série, tout ça, mais ça reste que Austin Matthews, William Nylander, parfois un peu plus que Matthews, mais ces deux joueurs-là en série, c'était pas vraiment les mêmes joueurs qu'en saison régulière. Non. Puis là, tu te retrouves que c'est eux, tes fers de lance offensif, c'est sur eux que tu comptes pour générer de l'attaque. Puis ce sont deux joueurs qui ont la réputation peut-être d'être là une fois sur deux, une période sur deux, une période sur trois. Je suis quand même pas vraiment surpris parce que le départ de Marner, puis tu sais, on en parlait aussi, là, en désavantage numérique, c'est un joueur qui jouait beaucoup, beaucoup de minutes. C'est un gars qui est important dans toutes les situations. Puis là, t'as enlevé ça de l'équation. Pour moi, c'est le résultat, tu sais, c'est 1+1. Le résultat de ça, c'est que cette équipe-là en arrache en ce moment. Tu regardes la formation sans Austin Matthews, là, j'ai ça sous les yeux en ce moment. Max Domi est ton deuxième centre. Avec Matthew Nice, je comprends que c'est un bon espoir, puis on l'a en haute estime du côté de Toronto, mais Easton Cowan, première saison, à l'aide du deuxième trio. Puis après
Nick
ça...
Nick Robertson est sur le premier trio présentement.
C'est un gars qui on n'a jamais eu.
C'est ça.
On n'a jamais eu confiance en lui.
Puis en plus, t'as son frère Jason qui, lui, brûle tout à Dallas. Tu dis, on va lui laisser une chance, on va... Peut-être qu'il y a le même niveau de talent qu'il va avoir. Puis non, il n'a jamais laissé la chance de se... On le fait là parce qu'on n'a pas le choix là, avec l'absence de Matthews. Là, mais
on regarde ça, puis il y a plus de trous dans cette formation-là qu'il n'y en a jamais eu, qu'il y en a eu depuis le début de l'ère Marner-Matthews à Toronto. C'est pas une équipe qui est aussi menaçante offensivement que par le passé. Du côté défensif, ben c'est peut-être... un peu mieux, mais ça reste que c'est pas encore... c'était pas une défensive que tu disais, bon, c'est une équipe qui va participer aux séries, absolument.
Écoute, moi, je regarde, Guillaume, je regarde cette défensive-là. Présentement, surtout samedi, là, les joueurs qui sont là présentement, ça fait... C'est très poreux, là. Mais en plus, t'as Chris Tanev puis Brandon Carlo qui sont sur la liste des blessés présentement. Ouais. Mais Tanev, il vieillit, là. Carlo, c'est pas la septième merveille du monde non plus, là. La septième, huitième, je sais plus, neuvième, en tout cas, prenez celle que vous voulez. Mais la porte, puis là, je pense que les partisans à Toronto sont peut-être en train de le réaliser. « Ah, il aurait dû être plus gentil avec Mitch Marner. » Parce que le départ de Mitch Marner, puis le fait que peut-être qu'on se disait qu'on allait signer Connor McDavid, puis il a signé 2 années de plus du côté d'Edmonton.
Oui, mais si ta stratégie, c'est de, fermer, de prier et de dire que McDavid va devenir joueur autonome,
ça
tient pas la route. Là. T'as un très bon joueur dans ta cour, t'as un gars qui te donne 100 points, 90 et plus depuis plusieurs saisons à Mitch Marner, qui est très bon défensivement, qui, pendant la saison, allume peut-être un feu chez Austin Matthews aussi, chez William Nylander. Certains joueurs, on dirait qu'ils ont besoin d'une étincelle pour rouler à Toronto.
Ouais, puis juste ajouter là-dessus, là, tu sais, en série, il était pointé du doigt Mitch Marner parce qu'il sautait des plombs des fois à ses coéquipiers, mais là, on a peut-être la preuve que c'était lui qui allait les allumer. Là. Non, mais c'est ça.
Les plombs devaient être sautés, là, exactement. Là, c'est...
Tantôt, Nick, on a longuement parlé des blessés chez le CH. Mais tu regardes Toronto, si c'est une illustration à travers la ligue, mais Stolarz est blessé en ce moment. Brennan Carlo, Chris Tanev à ligne bleue. Austin Matthews, c'est pas du long terme. Scott Laughton, Nicolas Roy, c'est également du court terme, mais ça, tu commences à parler de plusieurs joueurs sur la liste des blessés.
Puis Matthews, il commence à être de plus en plus fragile.
L'an dernier,
c'est dommage,
il a eu mal au dos toute la saison. Est-ce qu'on va revoir le Austin Matthews qui en marque 50, qui en marque 60? On est loin de ça cette année. Puis un signe, tu sais, on a parlé de drapeau rouge, mais Craig Berube perd patience de plus en plus. C'est pas le type d'homme que tu souhaites voir fâché non plus. Là. Il y a des mains gigantesques, le bon Craig. Tu sais, il commence à dire « je sais pas comment passer mon message, je sais pas si je dois donner un coup de pied au derrière à certains joueurs. » Craig Berube, c'est un gars qui avait une structure très défensive avec les Blues de Saint-Louis, veut implanter le même style du côté de Toronto. Mais là, en ce moment, il n'y a peut-être pas les bons chevaux non plus pour y arriver. La ligne bleue, sans Tanev, sans Carlo, ça devient mince. Là, au moins, Joseph Woll revient au jeu. Ça, c'est une bonne chose d'avoir un autre gardien.
Joseph Woll est tellement fragile que...
J'ai pas osé sortir les Maple Leafs du portrait des séries. J'ai probablement joué d'une trop grande prudence. Mais il y avait déjà plusieurs indicateurs qui disaient, bien, peut-être qu'on va arriver à une saison difficile. Se relever du départ de Mitch Marner, c'est quand même un fiasco. Là. On peut dire ce qu'on veut. Ils ont rapatrié Nicolas Roy dans une transaction de dernière minute simplement pour obtenir quelque chose. Puis les Golden Knights devaient libérer un salaire pour trouver de l'espace et lui donner 12 millions par saison.
Mais placer ce scénario-là
à Montréal, là, le CH perd Nick Suzuki dans 4 ans pour absolument rien. On va en parler pendant combien de temps? Là? La radio, ça va être des shows non-stop pendant 12 heures d'affilée, l'été au complet.
Ça va nous
rappeler les
expos.
C'est ce qui est arrivé à Toronto. Là.
Hein, ça va nous rappeler les expos.
Les expos, on le savait que c'était pour arriver. C'était une autre réalité. Tu sais, les expos, c'était une équipe qui développait des joueurs à un certain moment, là, quand les propriétaires... tout le monde a regardé le documentaire, mais c'est une des grandes raison aussi de la mort des expos, cette incapacité à garder tes joueurs de talent.
Oui, non, mais... Puis tu regardes les unités spéciales, l'avantage numérique des Maple Leafs, 26e présentement dans la Ligue. On est en milieu de...
Oui, mais encore là, Marner, c'était pas mal le cerveau de l'avantage numérique.
Ben, c'est ça. Tout passait par Marner. Le désavantage numérique, présentement, là, on est 18e. Ça passait aussi en partie par Marner. Val Filet, là, Anthony Stolarz avait rien prouvé sur le long terme. Joseph Woll n'a jamais rien prouvé aussi sur le long terme. J'ai tellement de points d'interrogation cette année. Je vois pas comment cette équipe-là va pouvoir terminer dans le... En tout cas, moi, je les avais vus quand même assez haut. J'avais dit, je pense, le Lightning, Toronto, les Panthers, parce que je me disais que les Panthers vont être un peu fatigués, puis c'est ce qu'on voit présentement. Mais honnêtement, puis c'est Craig Berube. Tu sais, peux-tu déjà le mettre sur le siège chaud, comme on dit en anglais, sur le hot seat, là, déjà? Est-ce qu'on pense? Ça fait pas longtemps qu'il est là, Berube, là.
Je pense pas que ce serait la solution, parce que c'est justement l'entraîneur, un type d'entraîneur qui qui veut allumer ses joueurs, puis qui veut amener un site de jeu plus dynamique, plus travaillant, plus robuste peut-être. Mais comme disait GF, c'est pas Matthews puis Nylander qui vont mener la charge de ce point de vue-là. Là, Matthews est capable de jouer un peu plus physique, mais il est tellement fragile en ce moment. Puis tu sais, l'an dernier à Toronto, là, on a parlé d'une possibilité d'opération pour Auston Matthews pendant toute la saison avec ses problèmes récurrents au dos. Puis c'est pas arrivé. Puis là, cette année, bon, ben, on est à la mi-novembre, puis il rate une semaine. Est-ce que c'est lié à ça? Peut-être que oui, peut-être que non, mais.
Puis le dos, ça pardonne pas, là. Exact. S'il y a un endroit que c'est problématique, ouais,
c'est
ça
compliqué,
peut être à long
terme, tu peux pas te faire opérer nécessairement. Donc c'est. Mm-hmm. Puis quand tu parles de gestion d'équipe aussi, là, les Maple Leafs n'ont pas de choix de premier tour en 2026, n'ont pas de choix de deuxième tour, n'ont pas de choix de quatrième tour, n'ont pas leur choix de premier tour pour 2027, n'ont pas leur choix de troisième tour pour 2027. Puis là, ils n'ont pas été chercher Wayne Gretzky puis Bobby Orr, là. Ils ont été chercher Scott Laughton puis Brandon Carlo. Je comprends que la fenêtre, ils voulaient la garder ouverte.
Puis pour Carlo, on a donné un des meilleurs espoirs de l'organisation, Minton, qui n'était pas un choix de premier tour, mais Fraser Minton qui a pris la direction inverse qu'on a vu au Centre Bell avec les Bruins. Fait on a vidé la banque d'espoir, puis je comprends que tu le fasses dans un moment où la fenêtre est ouverte. Là. C'était pas mal là qu'il était rendu, mais peut-être, je sais pas si on peut parler de reconstruction, ça va être un peu plus long de se remettre sur les rails du côté de Toronto.
C'est quand même ironique parce que tu as fait ces acquisitions-là en sachant que tu allais perdre Marner, puis tu as vraiment brûlé tous les ponts possibles avec Marner durant la saison, même en essayant de l'échanger aux Hurricanes contre Mikko Rantanen. Ouais. Il y a une gestion qui a été très déficiente, puis tu parles de reconstruction, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. T'sais, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix? Parce que John Tavares a signé là, tu as William Nylander qui, honnêtement, ces deux-là, cette année, des bonnes saisons, là, présentement, Tavares, il gagne son salaire, là, il a baissé de salaire.
Mais Tavares, c'est le meilleur joueur des Maple Leafs. En termes de constance, Tavares, c'est le meilleur.
C'est ça, exactement. Mais tu fais quoi si ça se poursuit et tu descends? Est-ce que là, tu lances la reconstruction et tu échanges? Je pense qu'il y a des clauses de non-échange, mais bon, de toute façon, ça se jase tout le temps.
Mais je trouve que c'est une belle preuve aussi, Nick, tu sais, d'impondérable. Peut-être qu'on crie au génie pour Brad Treliving. Deuxième tour des séries contre les Panthers, là, les Maple Leafs, passaient proches. Là. C'était possible pour eux de gagner. Là, si jamais ils sortent les Panthers, s'ils sortent les Panthers, est-ce qu'on parle d'une histoire complètement différente? On a déjà, tu sais, la statue de Brad Treliving est terminée et une première conquête de la Coupe Stanley depuis 1967.
À côté de ça, de Mitch Marner qui décide de rester à Toronto.
De rester, mais c'est ça. C'est un monde cruel. Tu choisis de les échanger.
On passe pas notre temps dans l'avion en finale à faire Floride-Edmonton. Edmonton-Toronto, ça se fait beaucoup mieux. Tu sais, plein de choses qui auraient pu changer dans ce printemps-là.
Mais tu viens de parler d'Edmonton, ça ne va pas mieux non plus pour les Oilers d'Edmonton. Là.
Oh non.
Si je peux consoler Guillaume, en ce moment, les Oilers qui perdent 5-1 contre le Buffalo.
Yes.
Il y a quelques jours, ils en donnent 9 contre l'Avalanche du Colorado. Mais on dirait que c'est classique. Il faudrait ressortir tous les balados, mais les Oilers au mois de novembre, c'est
catastrophique.
C'est toujours catastrophique. Trouve une façon de se relever, mais est-ce que tu peux le faire à tous les ans? On s'en reparlera.
Non. Ça avait coûté le job à Jay Woodcroft là,
il y a deux ans.
Ça, une mauvaise séquence. Les gars, bon. Je voulais jaser un petit peu quand on regarde un petit peu le classement des marqueurs depuis le début de la saison. Il y a quelque chose qui, moi, je ne l'avais pas vu venir. Je pense pas qu'il y avait grand monde qui l'avait vu venir. Macklin Celebrini ce matin, 3e meilleur marqueur de la Ligue avec 27 points en 19 matchs. Il est à 3 points de Connor McDavid qui a 2 matchs de plus de jouer. Donc, on est point par match, là. À part Nathan MacKinnon qui est loin devant, là. Les autres, Macklin Celebrini qui est là. 5e, Leo Carlson à égalité avec Connor Bedard qui est 6e. Il y a une vague de jeunesse présentement, de joueurs que... Souvenez-vous, le début de la saison, il y en a plusieurs qui disaient Connor Bedard, sera jamais un grand joueur. Sera jamais un joueur qui va faire peut-être un point par match ou qui va être dans la crème de la Ligue nationale. Celebrini, ça allait prendre du temps parce que c'est une équipe qui est très jeune. Leo Carlson, moi, on avait fait sa projection. Je disais, il va avoir une super belle année. 65 points que je lui donnais, je pense. Jusqu'à présent, il clenche ça et pas à peu près. Tu peux rajouter à ça Matthew Scheffer qui a un superbe début de saison. On a parlé de Lane Hudson aussi plus tôt dans l'émission. Est-ce qu'on est en train d'assister à une vague de jeunesse qui prend tout le sommet de la Ligue nationale en l'espace de 3-4 ans, un peu comme on avait vu au retour du lockout avec Sidney Crosby, avec Alex Ovechkin, il y en avait d'autres qui s'étaient amenés aussi. Est-ce qu'il y a un changement de garde brutal qui est en train de s'opérer dans la Ligue?
Ouais, je pense que c'était quand même prévisible avec les derniers repêchages, là, les premiers choix au total de chacun des repêchages avec Celebrini, avec Bédard. T'sais, on hésitait peut-être à les qualifier de talent générationnel à ce moment-là, mais...
Toi, t'hésitais. Il y en a d'autres qui l'ont fait.
Ouais, ben non, mais c'est parce que le mot est comme... Tu sais, est-ce que c'est Connor McDavid la référence ou est-ce que c'est... J'ai pas d'exemple qui vient en tête, non, mais tu sais, la barre est haute si tu parles de Connor McDavid. Fait que c'est dur de mettre cette étiquette-là à un jeune de 17 ans qui domine à son niveau, mais dont la projection, c'est peut-être plus compliqué.
Tu sais, je vais ajouter à ça, si 3 années de fil, t'as des joueurs générationnels,
Exact, ça perd un peu de sa saveur, mais...
Ou c'est une très grosse génération. C'est un peu... Scheffer, on parlait pas d'un joueur générationnel. S'il avait joué toute sa saison, peut-être que là, le terme aurait été employé. Là, on utilise le terme pour Gavin McKenna qui s'en vient l'an prochain aussi. Ça a été utilisé, non, même si... C'est plus lent un peu du côté de Penn State, son début de saison, mais c'est compréhensible. C'est pas une puissance, la Penn State, là, donc il s'est donné un beau défi là-bas. Mais oui, je te laisse poursuivre sur ce que tu disais.
Non, c'est ça. Tu sais, on hésitait, mais on avait quand même une certaine conviction que ça allait être des joueurs très, très dominants dans cette ligue-là. Donc, est-ce que c'était facile de prévoir que cette année, après un mois d'activité, un mois et demi, il allait être au sommet de la ligue? Peut-être pas, mais... On l'avait vu venir. On avait vu ces joueurs-là dominer à chaque étape de leur carrière. C'est sûr que ça prend du temps une fois que tu arrives dans la Ligue nationale, mais là, de ce qu'on voit, moi, dans la liste de tous ceux que tu as nommés, McLean Celebrini, c'est probablement celui qui m'impressionne le plus pour le moment parce que tu regardes ce qu'il y a autour de lui à San Jose. Bon, tu vas me dire que Connor Bédard n'est pas très, très mieux entouré que lui, là, mais... Du côté de San Jose, on est vraiment... il y a beaucoup de talents, de jeunes talents à San Jose, mais c'est ça. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais là, Celebrini, cette année, a vraiment pris les choses en main du côté de San Jose. Puis c'est assez impressionnant de le voir aller. Peut-être un développement, une coupe de développement, tu sais, c'est différent pour chaque joueur. En ce moment, il a l'air d'avoir une petite longueur d'avance sur Bédard. L'an passé, on sait que ça a été plus difficile de son côté, mais... pour l'instant, Celebrini est celui qui ressort du lot pour ma part.
Mais je parlais avec un recruteur de l'Association de l'Ouest il y a quelques jours, puis il me mentionnait que Celebrini est peut-être, en ce moment, le joueur le plus utile à son équipe. Si tu as à choisir un joueur, c'est pas simplement une bonne saison. Celebrini est très, très bon aussi, intelligent défensivement. C'est un gars qui s'est placé en tête la mission de gagner un poste avec l'équipe canadienne. Pas facile de percer cette formation-là à 19 ans, mais ça commence à être drôlement difficile de lui dire « Non, merci, on ne trouvera pas une place. » Celebrini, c'est un fabuleux joueur de hockey avec Will Smith. Il y a un paquet de jeunes du côté des Sharks qui vont vouloir pousser en même temps.
On parle même pas de William Eklund.
William Eklund, c'est un bon ailier également, mais tu regardes aussi Bédard et Leo Carlson. Moi, des trois, Leo Carlson est celui qui me surprend le plus pour sa poussée offensive. Mm-hmm. Je le voyais davantage comme un, dans le meilleur des mondes, un Alexander Barkov, là, un centre qui est responsable, qui est grand, qui est gros, qui est aussi bon offensivement que défensivement. Mais là, cette année, il fait un bond spectaculaire. Mais Carlson et Bédard, ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux profitent d'une nouvelle voie. Tu as Joel Quenneville qui vient de débarquer à Anaheim. Quenneville a déjà fait des miracles avec de jeunes joueurs. Jonathan Toews, Patrick Kane, la jeune génération des Blackhawks, c'était Quenneville qui était là. Remplace Greg Cronin. Puis Connor Bedard vient avec un nouvel entraîneur, avec Jeff Blashill. Anders Sorensen est parti, donc c'est une nouvelle voie, de nouvelles directives. Puis on l'avait en entrevue au cours de l'été. Là, on avait parlé à Celebrini et Bedard avec Dan Rosen du côté de Calgary là, pour une longue entrevue. Puis Bedard disait que dans les premiers jours de l'embauche de Jeff Blashill, Blashill lui envoyait déjà des messages textes en lui disant « Regarde la finale de la Coupe Stanley. Regarde comment les gars des Panthers vont jouer. Je veux que tu sois intense. Je veux que tu sois physique. » Puis déjà, là, il venait d'arriver en poste. Puis la relation, mais tu sais, en même temps, pas besoin d'être un génie pour te dire « Si tu as le boulot à Chicago, parle rapidement à Connor Bedard, c'est une bonne idée. » Mais déjà, tu voyais qu'il voulait établir une communication, une structure avec son jeune joueur de talent. Puis juste, tu sais, on a parlé de talent générationnel. C'est quoi la définition? Une génération, c'est combien de temps? C'est 10 ans? C'est 15 ans? C'est 20 ans? Ça peut pas revenir à tous les ans, mais Bedard, Celebrini, Matthew Scheffer, ils ont tous le talent pour changer une équipe, changer l'image d'une équipe. C'est le joueur vers qui tu veux bâtir. Mais ces trois-là répondent aux critères. Puis même chose pour Leo Carlson, qui est un deuxième choix, devant Adam Fantilli, qui lui était un troisième choix. Will Smith, quatrième. Top 4, t'es drôlement bon.
C'est bon.
CH a parlé cinquième. Pouf! C'est là que la séparation commençait avec David Reinbacher.
Oui, c'est vrai. Il y avait
l'effet sonore, là.
C'est ça. Mais il y avait...
Merci, Guillaume.
Les gens le disaient à l'époque qu'il y avait vraiment un clash entre le quatrième
mais
entre
il y avait,
le top 4.
Il y en avait d'autres aussi à Washington, à 7. Il y en a un qui n'est pas si mal. Pas à 7, mais à 6. 6, 7,
Ryan
non,
Leonard,
6,
tu veux dire?
6, c'est Dimitri Simachev.
C'est 8, Ryan Leonard.
Mishkov avait une bonne saison l'année dernière. Cette année, là, il y a encore un gros apprentissage. Écoute, je regarde, là, présentement, là, Celebrini joue avec Will Smith. De son côté, Bedard joue avec Ryan Green et André Burakovsky. Carson, de son côté, joue avec Chris Kreider, Troy Terry. J'ai hâte de voir. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu la moitié de ce que Bedard est capable de faire. Parce que quand il ne sera pas tout seul sur la glace, ça va être vraiment impressionnant. On a parlé. Écoute, je vais juste faire une liste. Là. Mettons, on parle de génération, justement. Là. Si on regarde des joueurs de moins de 23 ans, présentement dans la ligue, là, je vous en nomme quelques-uns. C'est tous déjà des joueurs d'impact dans leur équipe. Cutter Gauthier, je viens de nommer. Wyatt Johnston, qui est incroyable à Dallas. Dylan Gunter, Logan Cooley, le Mammouth est en voiture avec les autres. Tu parlais de Fantilli, il est 13e marqueur présentement chez les joueurs de moins de 23 ans. Tu as Demidov qui est en avant de lui. Pas parlé de Luke Hughes, là. J'ai pas parlé de... Il y en a d'autres, là. Il y en a plusieurs autres. Lane Hudson, oui, c'est vrai. Ben, Lane Hudson, on l'avait nommé tantôt, mais effectivement, il y a Lane Hudson dans cette gang-là. Il y a un groupe d'une quinzaine de joueurs dans cette génération-là qui, j'ai l'impression, vont être solides pour plusieurs années. Les gars, je vous demande, Celebrini, Carson, Bedard, vous commencez un club demain. Félicitations, vous venez d'avoir un club d'expansion. Tu choisis Terrebonne ou tu choisis Longueuil de ton côté, GF?
Écoute.
Parce qu'on s'entend pour ton club. Guillaume va mettre ça dans Hochelaga, là, si on s'entend. Là, ça va être le gros club d'Hochelaga.
Dans le stade.
Dans le stade. Ben écoute, il faudrait qu'il serve à quelque chose.
Blainville ou Longueuil.
Blainville, c'est vrai. Excuse pas, Terrebonne. Blainville, je veux pas insulter personne. Vous prenez quel des trois?
Je pense que je prends Macklin Celebrini.
Plus complet.
Mais écoute, Connor Bedard, cette année, c'est le Connor Bedard que tu souhaitais voir. Le Connor Bedard aussi, Guillaume, a couvert les championnats du monde. Là, il y a des matchs où tu avais Connor Bedard et le reste des joueurs sur une patinoire. C'est très, très, très proche. Pour moi, c'est pas Leo Carlson, même si Leo Carlson a une très, très bonne saison. Mais ça se joue entre Celebrini et Bedard. Petit faible pour Celebrini. Celebrini a à peine 19 ans. Là, il a fêté ses 19 ans cet été. Il est
pas
tout jeune comme joueur de... Non.
Pas de barbe, rien.
Non. Ça, pas comme toi, Nick.
Non, mais moi, écoute, patché, là, moi, il y a des trous dedans, là, puis...
Je suis curieux d'entendre la réponse de Guillaume, par contre.
Oui,
j'ai un peu vendu le punch tantôt, là, mais je pense que je vais avec Celebrini aussi. Mm-hmm. Puis c'est curieux parce que, tu sais, on parlait de Bédard puis les championnats juniors et tout ça. Il n'y avait aucune comparaison entre Bédard, ce qu'il a fait avec l'équipe canadienne au championnat mondial junior et ce que Celebrini a fait. Il a été là seulement une saison, là, Michael Celebrini. Ça avait été plus difficile collectivement, mais quand même, tu sais, c'est quand même 8 points en 5 matchs, mais on voyait pas le même... Tu sais, il était pas capable de prendre le contrôle du match autant que Connor Bedard le faisait, mais là, de voir sa progression, puis moi, je pointerais peut-être vers le championnat mondial senior. Il est allé là, il a rencontré Sidney Crosby. Cet été, Crosby l'a invité en Nouvelle-Écosse pour pratiquer avec McKinnon et toute cette bande-là.
Tu dis pas non à ça, une invitation comme ça. Hein?
C'est vraiment non, mais tu sais, je me dis, ça a peut-être allumé quelque chose en Celebrini. Puis, tu sais, côté leadership, tout ça, il a vu Sidney Crosby, puis il est devenu proche avec lui. Là, il semble avoir une bonne relation avec. Donc, je me demande à quel point ça a eu un impact sur son début de saison, sur sa mentalité, son aspect leadership, parce que lui, il a peut-être dit, regarde, là, les Sharks l'an dernier, on était dernier, là, on a mangé notre pain noir, puis cette année, ça suffit, on va aller gagner un peu de respect du côté des autres équipes de la Ligue, puis pour le moment, prendre les choses en main. J'ai hâte de voir, quand on va se reparler en février-mars, avec le calendrier condensé, c'est quand même pas des joueurs qui ont énormément d'expérience dans la gestion des énergies, dans la gestion d'une longue saison dans la Ligue nationale. Est-ce que ça va se maintenir? Peut-être, mais si on se reparle au mois de mars puis que le classement est encore similaire, ben là, on pourra se dire que la nouvelle vague est vraiment véritablement arrivée. Là.
Guillaume parle de classement, là, mais en date du 18 novembre, il y a peut-être deux équipes qui ont un grand sourire aux lèvres. C'était pas le plan, mais les Flames de Calgary et les Predators de Nashville, eux, ils vont prier jusqu'à la fin de l'année pour que Bédard continue, pour que Macklin Celebrini roule à fond, parce que ça va leur donner un plus grand pourcentage pour Gavin McKenna. Si on recule de 3 mois, on croyait que les Blackhawks, c'était encore une formation pour le boulier. Même chose pour les Sharks de San Jose. On plaçait aussi les Penguins de Pittsburgh dans le boulier. Mais il y a un vieux Sidney Crosby qui a dit « Non, moi, le boulier, je veux rien savoir. » Donc, ça l'ouvre la porte à Calgary, puis à Nashville. Nashville, aussi, il y a des rumeurs pour Steven Stamkos, mais Stamkos a tellement ralenti, il y a 8 millions. Bonne chance à Barry Trotz.
Tout ça pour perdre la loterie au profit des Islanders.
D'une autre équipe, mais c'est ça.
Qui vont finir 11e. Je pense que c'était ça, c'était 11e au niveau des... Bon, c'est ça. Tout ça pour perdre ça au profit des Islanders ou d'un club comme ça. Au profit
c'est quand
des
même
Maple
l'aspect
Leafs.
Regarde le bien fun,
ça,
je
les Maple Leafs vont rater
Gavin
les séries éliminatoires.
Ouais, mais
Gavin McKenna, c'était ça le plan. C'était tout engagé.
Le choix de premier tour doit être protégé, par contre. J'ai pas lu sur les clauses.
Ah,
là.
C'est vrai, ben oui.
Mais
ah,
ils ont
serait...
pas, mais probablement que je vais aller voir au même moment qu'on se parle.
Va voir ça. Mais Guillaume, tu t'amenais un point intéressant quand tu faisais le parallèle Celebrini, Crosby, Bédard, sans être Ovechkin, mais il y a peut-être le potentiel offensif pour être vraiment une bombe offensive. Comme je dis, quand Crosby est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, les Pingouins l'ont entouré. Regardez un peu, il y a des joueurs qui ont été ajoutés. Il y a Mario aussi là, qui est revenu au jeu là, pour l'appuyer, là, pas mauvais. Quand Ovechkin est arrivé, rapidement, les Capitals ont relancé le club avec des ajouts et tout ça pour vraiment devenir un meilleur club. Ce que les Blackhawks n'ont pas fait.
Mais il y a un Nick Foligno qui n'est pas un
que...
joueur vedette, mais qui est un bon vétéran.
Qui c'est?
Un Corey Perry à l'époque.
Nick Foligno.
Oui, mais je veux dire, Nick Foligno n'est pas Mario Lemieux. Tu comprends
non,
ce que
non,
je veux
non,
dire?
Non,
c'est ça mon
et
point.
Oui, les gars, le choix est protégé. Je ferme la parenthèse.
Le choix est protégé.
Mais
okay,
protégé top 5. Donc, les équipes sont assez intelligentes.
Protégé top 5. OK. Bon, alors, comme je disais, c'est le plan. C'était ça le plan de Brad Treliving. On laisse partir Mitch Marner, Gavin McKenna s'en vient du côté de Toronto.
Oui, parce que là, le plan Connor McDavid n'a pas fonctionné aussi.
Ben c'est ça. C'était un ou c'était l'autre. Ça allait être ça. Ou ça. En terminant, vous êtes Doug Armstrong, vous êtes l'équipe canadienne. Pour la Suédoise, Leodor Carson, ça, c'est assuré que Carson va être sur l'équipe. Mais est-ce que vous faites une place à Celebrini? Est-ce que vous faites une place à Bédard? Est-ce que vous ne faites pas la gaffe que le Canada a fait en 2006 en mettant pas Sidney Crosby sur son équipe nationale?
Ben, tu as une limite de joueurs.
25.
Oui, 25. Un des deux, je pense qu'on n'est pas loin de 98% de dire qu'il y en aura au moins un des deux. Je crois que Celebrini a déjà un pied et demi dans la porte du vestiaire. Mais écoute, tu peux te rendre à 14 attaquants. T'sais, si tu invites Bédard comme 14e attaquant, je pense pas qu'il te fait mal. Si tu as un joueur vedette qui tombe en raison d'une blessure, tu as un autre joueur étoile pour le remplacer. Mais c'est difficile parce que c'est pas d'inviter les 14 attaquants les plus talentueux, c'est de construire une équipe d'hockey.
C'est ça.
Mais je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va s'envoler pour Milan.
Toi, Guillaume?
Moi, je suis d'accord aussi, mais mon seul bémol, c'est de savoir au mois de... Je sais pas, c'est la date limite pour la soumission des...
C'est le 31 janvier, décembre, ouais, techniquement, 31 décembre. Ouais, mais 31 après décembre. Ça, écoute, s'il y a des blessés, puis tu peux jouer avec jusqu'à très tardivement, là, je pense.
Parce que, tu sais, mon point de tout ont, à l'heure, ont, quand je disais, deux, est-ce trois, qu'ils vont ralentir?
J'allais dire, ils ont deux, trois chandails de spare pour la cérémonie d'ouverture, si jamais c'est nécessaire.
Ouais, de toute façon, il manque la cérémonie d'ouverture.
Ouais, c'est ça. À l'heure qu'on va arriver, ça va être commencé.
Le tournoi commence dans le coin du 10 ou 11, tandis que la cérémonie d'ouverture, le 6. Mais ouais. Continue, Guillaume.
Mais non, moi, c'est mon seul bémol, c'est de savoir est-ce que ça va se poursuivre. C'est des jeunes, est-ce qu'ils vont être capables de tenir le rythme jusqu'au mois de février puis être aussi dominants au mois de février dans un contexte olympique avec les meilleurs au monde? C'est mon seul bémol, mais si au 31 décembre, Macklin Celebrini ou Connor Bédard est aussi productif, ben t'as peut-être pas le choix d'en inclure au moins un des deux puis de te dire, ben regarde, si jamais il ralentit puis qu'il est fatigué au mois de février, ben ce sera une expérience qu'il vivra de l'extérieur. Puis Comme JF dit, c'est quand même pas mauvais d'avoir un Celebrini ou un Bédard en relève là, si jamais il y a des blessés et tout ça. Fait que moi, peut-être pas les deux parce que tu veux pas trop miser sur la jeunesse non plus dans une expérience.
C'est pas un tournoi de développement, là.
Exact.
Les deux vont pouvoir jouer probablement au championnat mondial. Ça sera le tournoi de développement, là, c'est ce qu'on vise, là.
Mais j'en vois quand même au moins un des deux là, avec l'équipe canadienne. Je pense que tu peux pas commencer à dire « Ah, ben lui, il nous amène pas assez de papier sablé, pas assez responsable défensivement quand les gars dominent la Ligue nationale comme ils font en ce moment. »
Mais j'aime les propos de Guillaume. Là. Guillaume parle de maintenir une cadence. Là. Je viens de faire une savante règle de 3. Macklin Celebrini, 27 points en 19 matchs. C'est une saison de 116,5 points. C'est 117 points. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Si Celebrini finit à 82 points, un point par match, on parlera déjà d'une saison gigantesque pour lui. Mais là, de continuer à un rythme de 116 points, il va y avoir un ralentissement à un certain moment. Ça, il n'y a pas de doute.
En même temps, regardez les taux d'efficacité des gardiens cette année. C'est en chute libre de la Ligue au complet. Est vraiment explosé. Mais bon, au final, la réponse va peut-être venir d'elle-même parce que tu regardes à date qui manque, les joueurs qui ont été blessés. Il y a plusieurs absents. Tu sais, Jack Hughes, tout ça, Drew Doughty, Thomas Harley, Charlie McAvoy qui sont blessés. Il va en avoir d'autres. Peut-être que finalement, la porte va s'ouvrir d'elle-même parce que, comme vous avez dit, si c'est une saison de 116 points pour Celebrini, pour Bédard, peu importe, à un moment donné, il y a des limites à refuser parce que c'est la jeunesse. Les gars, merci. On va mettre un terme à l'épisode là-dessus. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.
C'est toujours un plaisir.
Guillaume, bon, semaine prochaine, prochain balado, chers auditeurs. Logiquement, ça devrait être mercredi, mais très rapidement, parce qu'on va, on vous amène dans les coulisses, on va enregistrer ça mardi prochain, mais tard dans la journée, parce que l'ami Guillaume va être du côté de Calgary pour justement le match des meilleurs espoirs. Tu vas pouvoir aller discuter avec McKenna, j'en déduis.
Ben non, McKenna est aux États-Unis, NCAA.
Ben,
c'est l'homme.
Ah, c'est ben le match. Oui, c'est l'NTDP, il ne prête pas. Ouais, ouais, LCH.
Non.
Ben plate.
Ça aurait, ben c'est ça, ce match-là aurait eu. C'est un peu la réaction que tout le monde a eue. Ce match-là a perdu un peu de sa saveur quand McKenna a décidé d'aller jouer dans la NCAA. Quand même, on va rencontrer les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. Du côté de la LHMQ, il y a Xavier Villeneuve, il y a Maddox Dagenais qui vont être de cette équipe-là. Donc, on va aller faire un petit tour. du côté du Saddle Dome.
Qui, Guillaume, si jamais tu cherches un angle intéressant, est-ce que Xavier Villeneuve peut donner le prochain Lane Hudson? Je pense que ça n'a jamais été écrit dans les dernières semaines.
Non, c'est un bon flash. Mais non, je suis un peu inquiet là, d'aller du côté du Saddle Dome. On a notre correspondant du côté de Calgary qui est resté pris dans un ascenseur pendant une heure. La semaine dernière, puis moi, on connaît ma bad luck avec l'ascenseur d'Ottawa. J'espère ne pas revivre cette expérience. Ben, puis j'ai hâte de voir là, quand même la galerie de presse à Calgary. Je suis jamais allé.
Ça a l'air que pour les gens qui ont peur vertige, des hauteurs, la passerelle de presse de Calgary est quelque chose.
Non,
fait qu'on va aller expérimenter tout ça.
Mais est-ce que c'est juste qu'on avait oublié de la construire à l'époque puis on a rajouté ça perché en haut ou je ne sais pas parce que
écoute,
faut que tu marches au-dessus de la patinoire
pour
te rendre.
C'était pour les Olympiques de 88 dans le fond, là, le Saddle Dome. Ouais. Mais moi, ça fait quelques années quand même. Là, je suis retourné à Calgary cet été, mais sans avoir de match au Saddle Dome. Mais déjà à l'époque, quand je marchais, je trouvais que ça branlait. Là,
fun,
j'ai peut-être ajouté une dizaine de livres, fait que ça branlerait encore plus. Donc,
j'ai vu des images, puis ça me fait penser à la galerie de presse de l'ancien Colisée Pepsi à Québec. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller là-dessus, là, mais c'était... Il y avait du tapis sur le plancher, puis en dessous, je ne sais pas s'il y avait des morceaux qui manquaient, là, mais le tapis était très inégal, puis il y avait aussi des endroits où c'était seulement une clôture.
Ouais.
Puis mon centre de gravité, étant donné que je suis 6 pieds 4, il était plus haut. Donc, si quelqu'un me poussait, la clôture m'arrivait en haut du genou, puis je basculais du côté de la patinoire.
Puis,
disons que c'est pas
puis
c'était
le tapis,
pas l'idéal.
Il y avait du vécu aussi.
Oui.
Après, la structure, il y a comme une genre d'amiante aussi qui nous donnait vraiment confiance. C'était pas clair, mais ouais, la partie qui descend, je pense que c'était pour les caméras dans le temps. Là,
ça se peut, mais c'est pas très sécurisé.
Mais non, ouais, quand j'ai visité, j'ai pas. Moi, ayant le vertige, là, le Saddle Dome ou la Galerie de Québec. Mais je pense, de la manière que j'ai vu ça, c'est pire le Saddle Dome que le vieux Colisée. Ouais,
parce
Québec,
que le plancher est transparent, je pense. C'est comme une grille.
Ouais, c'est une grille, là, c'est
dessous,
ça. Ça me rappelle ça un peu. J'ai été visiter le Mont Blanc, là, il y a deux étés, là. Puis il y a un plancher en vitre, là. Ben, je n'ai pas été dessus. Je me suis retenu.
Ah, mais moi je l'ai fait quand même à Chamonix. Même mes filles, Zoé, 10 ans, a réussi à surmonter sa peur, Nick.
Faut mis les petites pantoufles?
Non. Oui. Puis tu dois prendre rapidement la photo. C'est un guide qui prend la photo. Mais ça, par contre, coup de chapeau, c'est quand même intelligent parce que il connaît son rôle, prend une photo, bang, bang, c'est terminé. Là, c'est pas l'influenceur qui débarque puis qui prend 52 photos identiques pour avoir l'angle parfait. Ça, j'ai bien aimé.
Ça vaut le détour, Chamonix. Honnêtement, j'ai adoré ça. As-tu été voir le fameux pont?
Visite complète, puis on s'est promené en montagne. C'est fabuleux, Chamonix.
Ma grande
déception. Une comparaison entre le plancher de la galerie de presse du Saddle Dome et le plancher du Mont Blanc, c'est
Non, honnêtement, Guillaume, tu comprends très bien.
Non, mais en termes d'environnement paradisiaque, exactement
là,
la même chose.
Tu vas pas commencer à planter le Saddle Dome et puis Calgary comme tu plantes Edmonton.
Donne une petite pause à l'Alberta.
Peut-être la semaine prochaine.
Lâche l'Alberta.
Je vais peut-être travailler pour notre commandite de Visite Alberta. On s'en donnera des nouvelles la semaine prochaine.
Mais ma grande déception quand j'ai visité Chamonix a été d'apprendre que c'est pas à l'aréna de Chamonix que les scènes de hockey sont filmées dans les Boys 2. T'as Pierre Fond. Moins exotique un peu. Là. Puis là, je pense qu'on n'aura pas non plus de commandite de tourisme Pierrefonds, mais bon, c'était un peu moins pittoresque, mais très. On salue les gens en France qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a d'ailleurs à Chamonix qui nous écoutent. On vous salue. Vous vivez dans un coin de pays paradisiaque. Les gars, merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Chers auditeurs, comme je dis, suivez-nous, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur vos plateformes d'écoute pour être certain de ne pas rater justement le prochain balado. Comme je vous dis, peut-être mardi soir, sinon mercredi matin, ça va être disponible. Et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.